Alors, dernière intervention de ce panel, Audrey Alves, je sais pas, tu vas changer de place ou pas? Tu
n'as pas besoin.
T'as pas besoin de... Bon, voilà. Donc, Audrey Alves est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Elle a réalisé un travail de thèse sur Hatzfeld, journaliste écrivain. Ça constitue depuis quelques années une préoccupation qui se traduit par des articles et un ouvrage. Et aujourd'hui, le titre de la communication, Devenir Jean Hatzfeld, ou l'œuvre de référence, Naufrage du journalisme et consécration de l'écrivain. On voit que là encore, il y a une tension à l'œuvre. On va en savoir plus dans une minute.
Merci Jacques. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me permettre de parler d'un journaliste, ou plutôt d'un ancien journaliste, qui a éprouvé la nécessité d'opérer un autre traitement de l'information, un autre traitement narratif à partir de son expérience rwandaise. Il a alors privilégié le livre et une écriture plus tendue vers l'exercice littéraire, là où d'autres ont préféré l'exercice essayiste. J'ai nommé Jean Hatzfeld et sa quadrilogie. Oui, quadrilogie, puisqu'à l'occasion de cette année commémorative, Gallimard a édité Englebert des collines, le quatrième opus de Jean Hatzfeld sur le génocide, et son triptyque a été proposé pour la première fois en un seul volume aux éditions du Seuil, sous le titre « Les récits des marées rwandais », un seul volume comme pour mieux marquer l'ampleur et l'articulation de cette œuvre d'écoute et d'interrogation, mais aussi d'envisager l'œuvre d'Hatzfeld comme un classique dans un processus d'académisation. Donc, œuvre de référence, car la singularité de la contribution d'Hatzfeld à la transmission du génocide est incontestable. C'est aussi un apport documentaire puissant. Hier encore, Jean-Pierre Chrétien évoquait lors de son intervention la méthode de l'historien qui pouvait se rapprocher de celle d'un Jean Hatzfeld qui collecte les comptes rendus d'expérience avec un protocole d'enquête dont les principes font écho aux compétences qui relèvent de la pratique journalistique. Si ce n'est qu'Hatzfeld procède à un lissage de la parole, il condense, la densifie, c'est une approche créative, hein, alors que l'historien, lui, privilégie une approche documentaire et réflexive. Œuvre de référence aussi inégalée dans le corpus de la littérature sur le sujet. En cela, mon propos aurait pu également intégrer la session littérature et théâtre. Les textes d'Hatzfeld ont également été transposés à la scène, avec notamment le metteur en scène Dominique Lurcel, Une saison de machette, mais aussi avec Isabelle Lafont, qui sera là d'ailleurs demain pour parler d'Igishanga. Tout à l'heure, François Robinet en a parlé. La démarche d'Hatzfeld a également donné lieu à une adaptation à l'écran, dans un reportage diffusé dans le magazine 7 à 8, adaptation qui, entre parenthèses, est l'unique impair hein, en termes de transposition et de médiatisation de l'œuvre, cédant un peu au pathos et au sensationnalisme qui altère la teneur des témoignages et ne parvient pas à rendre la complexité et la finesse du travail du journaliste. Je ferme la parenthèse, là, juste pour rebondir sur ce que disait François tout à l'heure. Alors, moi, j'ai trouvé très approprié d'intégrer cette session consacrée aux médias et à la fabrique de l'information. Au-delà de l'évidence de mon ancrage disciplinaire, les sciences de l'information et de la communication, il est intéressant de déporter certaines questions que pose le travail de Jean Hatzfeld sur le plan journalistique. Alors, il est vrai d'abord que personne ne s'est véritablement saisi de la production journalistique d'Hatzfeld sur le terrain cette année-là, en 1994. Hatzfeld n'a pas couvert le génocide. J'entends à proprement parler, on voit ici et là des notices biographiques erronées à ce propos. Il couvre l'exode massif de la population Hutu vers les frontières aïroises, comme beaucoup de ses confrères. Il va couvrir l'urgence humanitaire, la situation humanitaire. Il m'a donc semblé important de retrouver les articles en question au sein des archives de Libération pour saisir la démarche et les interprétations journalistiques de Jean Hatzfeld au Rwanda juste après le génocide. Corpus qui semble loin d'être anodin quant à la compréhension de la genèse et de la construction du projet éditorial de la quadrilogie. Donc j'ai tenté d'examiner la façon dont il a commenté l'exode, évoqué aussi son retour en 1998 au Rwanda et observé l'existence éventuelle des prémices de la quadrilogie dans la presse. Alors vous comprendrez bien que du coup je n'aurai pas du tout le temps d'évoquer la médiatisation de l'œuvre hein, dans le cadre de cette intervention. Alors, ce corpus d'articles que l'on interroge est maigre, 8 articles. Hatzfeld dit lui-même avoir fait juste de l'intérim au Rwanda. Son journal Libération est sur le fait depuis le début des massacres, avec notamment le travail remarquable de Jean-Philippe Seppi. Le génocide a non seulement été couvert, mais reconnu très tôt dans les colonnes de Libération. C'est depuis les États-Unis où il couvre la Coupe du Monde de football. Jean Hetzel est un journaliste sportif à la base. Et donc, il prend connaissance du génocide depuis son hôtel à Los Angeles. Et son dernier papier consacré à l'événement sportif remonte au 12 juillet 1994. Il s'ensuit un mois vierge en termes de production, avec son premier article recensé sur le Rwanda le 15 août, ce qui correspond chronologiquement à la fin de l'action militaire française, les forces de l'opération turquoise, et son remplacement par la force internationale Minuar, un épisode qui a été fortement médiatisé. Un doute subsiste sur la date précise de l'arrivée de Jean Hetzfeld au Rwanda. Lui pense se souvenir être arrivé vers le 18 juillet 1994, alors que Florence Omnas, restée sur place pendant environ un mois à partir du 14 juillet, ne se souvient pas l'avoir croisé. Elle ajoute « Je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment reparlé de l'événement par la suite. Je n'ai pas le souvenir de discussions passionnées avec Jean sur le Rwanda. » En dépit de ce flou dans le calendrier, une chose est sûre, Hetzfeld arrive en pleine dramaturgie de l'exil. Alors, lors de ces reportages, Hetzfeld nous confie qu'il n'a pas du tout l'idée que le Rwanda va être important pour lui. Notons aussi, car c'est un élément non négligeable, qu'il s'agit de ses premiers pas au Rwanda, et plus généralement en Afrique centrale. Hetzfeld n'était intervenu jusqu'alors qu'en Afrique de l'Ouest et du Nord. Au total, on dénombre donc 8 reportages signés par le journaliste et relatifs à cet exode des Rwandais vers les pays limitrophes, publiés entre le 15 août et le 1er septembre. Sachant que Jean Hetzfeld va rapidement retrouver le conflit des Balkans après ses reportages en Afrique, Hetzfeld à cette époque est totalement concentré et il est reconnu aussi pour sa couverture du conflit en ex-Yougoslavie. Il vient de publier en février 1994 son premier récit, L'ère de la guerre, sur les routes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, qui relate l'assaut et le siège de Vukovar, puis de Sarajevo, par les forces serbes. Donc, dans ce livre, c'est important, mais il faut savoir qu'il fait état d'une tranchante lucidité, voire d'un profond désenchantement quant au métier de journaliste. Donc, on voit qu'il y a déjà un discours critique et passionné sur la difficulté d'incarner cette figure clé du journalisme. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il se trouve en abordant le Rwanda. Alors, que nous disent ces 8 papiers sur le regard de Jean Hetzfeld à chaud après le génocide? Alors, on le sait, François Robinet, tout à l'heure, dans son intervention, le rappelait, l'histoire immédiate des événements est beaucoup plus influencée par des schèmes interprétatifs souvent stéréotypés dans les médias, entre autres la mobilisation du lexique de la guerre ethnique, que par le renouvellement des informations par le reportage. C'est le constat que j'ai pu vérifier dans les articles de Jean Hetzfeld, que je qualifierais d'ambigu, et où s'exprime, dans le peu de traces explicites de la présence de l'auteur, toute la réserve du journaliste. Alors, on peut dégager 3 points saillants de cette analyse. D'abord, les articles proposent une interprétation dépolitisée et encadrée de la crise. Deuxièmement, les articles voient émerger une ambiguïté narrative à la lecture entre accusation et compassion. Et enfin, on ressent une quête inaboutie, celle du bon témoignage. Alors, interprétation dépolitisée et encadrée de la crise. Hetzfeld s'intéresse à ces personnes identifiées comme réfugiées. Une majorité de cette population déplacée a participé au massacre. À l'époque, on parle de réfugiés. Et il s'intéresse aussi à tout le déploiement militaire et humanitaire qui accompagne cet exode massif. Hetzfeld n'aborde jamais la question politique de l'engagement militaire et diplomatique du gouvernement français, ni celle du bien fondé de l'opération turquoise. Nombreux sont les journalistes à avoir adopté une posture critique, sinon dénonciatrice envers la politique d'intervention de la France. Si Hetzfeld n'active pas ce registre, il n'adhère pas pour autant aux actions menées, c'est simplement que la posture journalistique à laquelle il se tient, celle du reporter conteur et non celle du journaliste d'opinion, implique d'éviter les prises de position partisanes. En revanche, à la lecture de ces papiers, on est frappé par la présence, voire l'omniprésence de l'armée, par le rapport de dépendance qui semble s'être exercé sur Hetzfeld, lui qui se distingue habituellement dans son traitement journalistique par un choix original de lieux, de témoins. Ici, le journaliste dispose comme source première des témoignages issus des forces armées. On le sent encadré, si ce n'est encarté, comme l'ensemble de la profession dans une zone sécuritaire qui lui retire une grande partie de son autonomie. Deuxième point qu'on relève dans ces articles, c'est l'ambiguïté narrative. Le journaliste reconnaît les massacres des Tutsis et en parle nettement. Hetzfeld n'opère aucune confusion parmi les acteurs et observe bien qu'il s'agit d'un cortège de génocidaires. Pour autant, En confrontant le témoignage des Hutus en partance, il rapporte néanmoins sans réserve, comme la plupart des journalistes présents sur le site, un élément explicatif développé par certains candidats à l'exode et qui sous-entend l'argument irrecevable de la contre-violence. À plusieurs reprises, dans la mise en scène des paroles rapportées, le journaliste marquera sa distance, mais le fait de délivrer quand même les témoignages de ces réfugiés, ça crée un trouble, autant pour le journaliste que pour le lecteur. Hatzfeld se risque à des formulations ambivalentes, reprenant les propos des témoins, alors même que ceux-ci sont susceptibles d'obscurcir la pensée du lecteur et d'organiser une forme d'ambiguïté. Troisième point de cette analyse, on ressent une quête inaboutie du bon témoignage. Sur place, Hatzfeld ne parvient pas à accéder au bon témoin. Au-delà des propos rapportés des militaires, qui peuvent participer d'un schème compréhensif, il cherche naturellement à recueillir d'autres témoignages, ceux des déplacés notamment, mais il se confronte d'abord soit au mutisme, soit aux conventions langagières de ces hommes. Hatzfeld parvient à faire parler quelques femmes, témoignages que l'on est forcé de qualifier de stériles, et qui ne présentent ni les garanties de véracité, ni les attributs esthétiques de la langue pour être éligibles dans la quadrilogie. Un autre argument évoqué par Hatzfeld doit être signalé ici, il concerne le retour sur le territoire au moment de l'exode de l'expatrié Tutsi, qui revient au pays qu'il a quitté depuis des années, au gré de la situation géopolitique bien sûr, un acteur qui, se confondant avec le rescapé, brouille également les interprétations journalistiques. Dans un article, on trouve ainsi au Café du Prévert, je cite Jean Hatzfeld, des Tutsis revenus en nombre du Burundi, où ils vivaient en exil depuis des années. Il y règne une joyeuse ambiance de retrouvailles. Il faut attendre le dernier article, le 1er septembre, pour que la temporalité journalistique se calme. Jean Hatzfeld se décale des terres humanitaires, quitte le Rwanda pour le Burundi et s'arrête dans un village, un Ndava. Nous repérons alors seulement un procédé et un ton nouveau lié à l'apparition d'un témoignage inédit, celui du rescapé Tutsi. Je cite Hatzfeld, Jean-Baptiste, quelques kilomètres plus loin dans son champ, est de cela. Sa famille Tutsi est originaire de Ndava. Il possède une dizaine d'hectares qu'il travaille tous les jours, mais il n'habite plus là. À l'issue de cette analyse, force est de constater que ces premiers reportages de Jean Hatzfeld, consacrés au Rwanda en 1994, un mois après le désastre, apparaissent assez parcellaires et confus. Comme l'ensemble de ses confrères sur place, il ne marque pas nettement de ligne de partage entre les rumeurs et les informations, alimente une ambiguïté interprétative en répétant l'argument répandu de la contre-violence. Et dans ses articles, les discordances se multiplient entre les sources militaires, les observations directes du journaliste et les quelques témoignages de réfugiés. Tout cela participe à une compréhension troublée de l'événement, reflétant au passage la complexité à réaliser et à appréhender l'existence du récent génocide. Hatzfeld se souvient que c'est seulement à son retour à Paris, en septembre, qu'il a pris conscience du peu de lucidité dont sa profession a fait preuve, lui le premier. Dans nos entretiens, il reconnaîtra s'être fait berner, se sentant assez consterné, notamment d'avoir manqué l'essentiel, le rescapé. Hatzfeld éprouve un sentiment de culpabilité, d'impuissance ou de honte, dit-il, et je le cite, de n'avoir pas pu faire la différence. Pour Hatzfeld, c'est aussi l'occasion de déplorer une nouvelle fois, comme il l'avait déjà fait dans son livre « L'ère de la guerre », l'évolution prise par son métier et d'évoquer le malaise que suscite chez lui la mentalité et les pratiques du reporter de guerre moderne, comme il l'avait donc entrepris très récemment dans son premier récit. C'est aussi et surtout une manière de prendre le chemin d'un nouveau projet éditorial et professionnel. Donc, je passe et j'arrive aussi donc en 98, puisqu'Hatzfeld retourne au Rwanda en 98. Et l'année 98 est une date clé dans la naissance du projet éditorial. D'abord, cette année voit revenir en force la question rwandaise dans la sphère publique, notamment sous l'influence de textes publiés dans le Figaro, cette fois, à partir du mois de janvier, par le journaliste Patrick de Saint-Exupéry. Cette série d'articles rétrospectifs portant sur le génocide, quatre articles de Patrick Saint-Exupéry, qui sont assez virulents, dénoncent l'implication de la France au Rwanda. Il y a donc un contexte. Qui provoque ou réactive le débat public. Les réactions de l'opinion, comme celles de la classe politique suscitées par cette parution, alimentent les polémiques, lesquelles déboucheront sur la création de la mission d'information sur le Rwanda la même année. Donc c'est dans ce contexte agité que Jean Hatzfeld est envoyé en février 98 au Burundi pour couvrir la rébellion Hutu qui paralyse le pays. Le journaliste espère profiter de cette occasion pour passer la frontière et faire parler des victimes des massacres. Les termes de sa proposition font écho à la série du Figaro en publiant 3 reportages focalisés davantage sur les récits des rescapés. Si le premier article, intitulé « 4 ans après les massacres, au Rwanda, les orphelins du génocide », sera bien accueilli par la profession, au point de se voir décerner un prix du reportage pour ses qualités de description et ses propensions à faire naître le témoignage, malgré tout, toute la série de Jean Hatzfeld ne va rencontrer que peu d'écho dans le concert médiatique de l'époque. Pour cause, l'approche du journaliste est relayée aux pages voyage du journal. Le propos ne s'intègre pas dans les enjeux de la polémique déclenchée par son confrère du Figaro. Le registre adopté, empathique et centré sur le récit de témoins, ne correspond ni au ton féroce et dénonciateur du moment, ni peut-être à celui de la presse en général. Et là, je citerai peut-être Jacques Walter qui dit que d'une façon générale, la parole des rescapés est actuellement moins du ressort de la presse que du livre et surtout de l'audiovisuel. La presse est peut-être plus le lieu du débat. En somme, ce choix opéré par sa rédaction depuis Paris de publier ses textes dans une rubrique secondaire, dévalorisant aux yeux de Jean Hatzfeld, ainsi que le peu d'enthousiasme qu'il a cru percevoir de la part de Serge Julie, finissent de l'éloigner du journal et parallèlement d'asseoir son projet éditorial. Donc, très rapidement, cette série de 3 articles parus en mars 1998 dans Libération a comme principe de rendre compte des événements passés et raconter la vie quotidienne après le génocide par le prisme du témoin, cette fois. Dans sa première contribution, le journaliste s'intéresse aux conditions de vie des orphelins du drame à travers des portraits et des témoignages. On y découvre un portrait notamment de Sylvie Oumbiéhi, l'éclaireuse du journaliste à Niamata, bordée de témoignages longs qui livrent tour à tour dans un français imagé et chantant des éléments de récit de sa survivance et de son métier d'assistante sociale. Ces articles ont en commun de mettre à bien le programme fixé par le journaliste, les témoins, les rescapés avant tout, et de revenir sur des questions restées en suspens. Une analyse transversale de ces articles relève que le projet éditorial répond à 3 modalités. Le témoignage long, la description ornementale, la mise en perspective d'une langue inventive, ce français rwandais. Le dénominateur commun est aussi la présence dans les 3 papiers d'une personnalité, Sylvie Oumbiéhi, qui va rendre possible l'expression du témoignage. Cet article est le plus abouti de la série, dans la mesure où la dimension testimoniale y est prégnante, notamment en raison de la relation de confiance instaurée entre le journaliste et son guide sur les collines. Cet article augure nettement la trilogie, à tel point que le titre du premier opus y est annoncé dès la première phrase. Le titre de cet article est le suivant. C'est souvent au lendemain d'un désastre humain que l'on rencontre une personne éclatante. Peut-être, comme le suggère Sylvie Oumbiéhi, sans savoir qu'il s'agit d'elle, parce que si on revient de là-bas, on est dans le nu de la vie. Formule poignante qui résonne évidemment à l'oreille occidentale, n'étant pas sans rappeler la vie nue d'Agamben. Se confirme ensuite ce que nous remarquions plus avant dans le premier article de la série. On assiste conjointement et pour la première fois à la mise en perspective de la langue elliptique dans laquelle les témoins expriment leurs pensées. Jusque-là, les articles de Jean Hatzfeld au Rwanda n'avaient jamais fait état de cette langue singulière. Le témoignage long qui se rapproche de plus en plus du récit de vie, la description ornementale, la poésie naturelle de la langue, tous ces éléments convergent pour constituer une structure d'attente orientée vers le projet éditorial à venir. La récompense décernée au portrait de Sylvie Oumbiéhi, article donc qui préfigurait les stratégies et les formes d'écriture de la trilogie à venir, pousse le journaliste d'autant plus à opter pour la voie de la communication esthétique. Il s'agit d'entrer dans l'univers des témoins, d'habiter, d'incarner leur récit, de sublimer leur langue en travaillant non plus sur la rationalité, mais sur l'émotion, le ressenti. Donc c'est ce primat accordé à l'autre parole, qui a pour corollaire aussi l'effacement énonciatif de l'auteur qu'on va retrouver dans toute la quadrilogie, le fait de donner toute la parole à l'autre et de se placer derrière. De cette démarche, dans laquelle Hatzfeld engage abondamment ses derniers articles de presse, il en extrait très vite les fondamentaux du traitement testimonial qu'il réservera à la quadrilogie et qui en constituera sa force maîtresse. Il apparaît que Jean Hatzfeld n'entretient que concrètement son, que concrètement son statut de journaliste-écrivain durant les 6 années 94-2000 qui correspondent à la publication de ses livres sur les Balkans. Il devient exclusivement écrivain pour la quadrilogie et donc pour traiter du génocide au Rwanda. Donc cette analyse confirme le fléchissement de l'exercice journalistique et la consécration de l'écrivain. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps.
Encore un petit peu.
Encore un petit peu. Donc je vais en profiter. Très bien. Donc je vais en profiter pour parler de la médiatisation. J'avais cru que je n'aurais pas le temps de l'évoquer. De la médiatisation donc, de l'œuvre. Alors, la réussite de l'œuvre de Johannes Feld passe par une médiatisation toute spécifique. Il s'agit d'inscrire son œuvre en littérature, qui va lui demander eh bien, d'opérer des choix sur la scène médiatique et dans l'espace public. Johannes Feld intervient dès le début de l'acte de fabrication de l'objet livre. Il formule ses vœux. Il guide l'éditeur, il revendique par-dessus tout son parti pris esthétique. Les témoignages doivent être reçus en tant que littérature. Cette position, elle sera maintenue tout au long du processus de médiatisation. L'enjeu pour Hatzfeld est de se faire connaître et reconnaître en tant qu'écrivain. Ça veut dire que sa notoriété dans le journalisme, elle est préalable à son œuvre littéraire. Et il va toujours, sur un plateau de télé, essayer de se battre pour se présenter en tant qu'écrivain. À parcourir les interventions médiatiques, presse, radio, télévision et public, dans les librairies, les séances de dédicaces, mais aussi les salons, les tables rondes de Jean Hatzfeld, on peut identifier différents procédés visant à affermir la posture d'écrivain et à définir de quel écrivain il s'agit. Alors, ces procédés, nous avons choisi de les classer selon différents aspects, interactifs, discursifs, topographiques, et nous les détaillerons plus bas. L'intention que les entretiens avec l'auteur nous ont très tôt permis d'identifier sont les suivantes. Hatzfeld nous dit « J'ai tout pesé. Le titre, la couverture, même les invitations. Je demandais toujours pourquoi on m'invitait. Si c'était pour parler globalement de géopolitique en Afrique centrale, c'était non. Si c'était pour parler de guerre en général, c'était non. Si c'était pour parler du livre et des rescapés, alors j'acceptais. J'ai refusé énormément d'invitations, ça m'a fait du tort d'être à la fois journaliste et écrivain. » Le caractère esthétique que l'auteur confère au témoignage, son inscription dans le domaine littéraire, sont autant de partis pris en fonction desquels Jean Hatzfeld va justement sélectionner et penser ses interventions publiques et médiatiques. La question posée sera donc en substance la suivante. Comment s'harmonise la construction identitaire, les intentions de l'auteur, avec les exigences et les conventions de la conjoncture communicationnelle? Alors, j'ai repéré trois postures de la fabrique identitaire d'Hatzfeld. La première, que nous qualifierons de procédure d'assimilisation, consiste pour Jean Hatzfeld à se placer dans une situation propre à définir son appartenance à un cercle étroit. Autrement dit, à intervenir publiquement en présence d'autres témoins, tutélaires, sinon incontestables de l'histoire des génocides. Il va souvent intervenir avec Claude Lanzmann et Riti Pan. La deuxième procédure, que nous qualifierons de procédure de subversion identitaire, consiste en situation médiatique à contester et corriger les termes du contrat de communication lorsque celui-ci impose une identité sociale et médiatique non souhaitée par l'écrivain. Il s'agira pour Jean Hatzfeld de définir l'origine de sa parole. On l'aura compris. Par ses choix d'intervention, Hatzfeld tente avant tout de maîtriser la procédure identitaire. En effet, en dépit d'incontestables manqués, comme on l'a dit donc tout à l'heure avec l'adaptation à l'écran, il essaie de faire entendre la poésie du témoignage par la voix de l'écrivain, explorer sa dimension philosophique au gré d'un dispositif qui l'autorise. Et ce sont donc les procédés qui vont contribuer à élever le témoignage au rang de littérature.